Je vais juste répéter plus rapidement ce qu'a dit ce matin Gérard Mauger sur la très grande opportunité de cet ouvrage, qu'il y a très peu d'ouvrages de sociologie portugaise qui sont publiés en français. Ça tient à ce qu'expliquait Gérard Mauger ce matin sur la domination des productions anglo-saxonnes qui sont plutôt traduites en français, mais aussi il faut aussi voir, je parle plus près du micro, il faut aussi voir que au Portugal, avec notamment la politique de la recherche qui est menée depuis les années 80, avec notamment la FCT, donc la FCT a des choses très bien, parce qu'elle a publié, elle a financé en partie les travaux qui sont à l'origine de cet ouvrage, elle a financé des thèses qui sont à l'origine aussi de plusieurs travaux, mais il y a une domination très très forte au Portugal de faire rimer internationalisation et monde anglo-saxon. C'est-à-dire que la plupart des chercheurs sont très 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 fortement poussés à publier à l'international, mais ça veut dire souvent en anglais. Et donc peut-être que ici, alors comme on a nos collègues de Porto qui sont très francophones et très francophiles et qui sont depuis de très nombreuses années en interaction, en dialogue avec la sociologie française, ne pensez pas que c'est toute la sociologie portugaise qui est dans le même moule. C'est-à-dire que si vous allez, faites, là, je ne vais pas me donner de nom, hein, mais faites la sociologie à Coimbra ou à Lisbonne, vous avez des gens qui sont plutôt attirés vers le monde anglo-saxon, et avec des choses qu'on connaît, on commence à connaître petit à petit en France, avec le poids extrêmement fort de la bibliométrie, c'est-à-dire que au Portugal, pour des recrutements, pour des post-docs, pour des postes, on vous fait un H-index, et c'est extrêmement important, et une publication en français, alors peut-être dans les actes, ça peut encore passer, mais sinon, il vaut mieux traduire en anglais très largement, pour votre bien, pour votre carrière et pour la carrière de votre labo. Donc, ce petit point étant fait, je vais faire une lecture de mon point de vue, qui est celle d'un historien. Et donc, évidemment, avec des biais, et notamment un historien de la période contemporaine, de la dictature, de Salazar, dont on a vu notamment le très intéressant document qu'a mis Bruno sur les PID, donc la police politique, mais aussi, très rapidement, si j'ai le temps, sur la révolution des œillets. Et je vais partir d'un historien qui regrette que beaucoup d'historiens, notamment au Portugal, ne lisent pas assez les travaux de nos collègues. C'est-à-dire qu'au Portugal, l'histoire de l'État nouveau a surtout été, alors là je vais parfois caricaturer, hein, mais a été en grande partie une histoire politique, et une histoire politique très élitiste. C'est-à-dire qu'au Portugal, une des questions pour l'État nouveau a été de savoir si l'État nouveau, donc la dictature de Salazar, a été ou a ne pas été un fascisme. C'est la grande question depuis les années 70 jusqu'à nos jours, pour lesquelles, alors si vous connaissez un peu les débats en France sur le fascisme français, autour de Bernstein, Milza, Sternel, vous comprendrez la vivacité de ces débats et les implications à la fois historiographiques, parce que c'est une question historiographique évidemment, mais aussi les implications politiques. J'y reviendrai peut-être un peu à la fin, mais l'historiographie de l'État nouveau a commencé, comme la sociologie critique, quelques années avant la chute de la dictature. Elle s'est développée où ? Notamment en France. C'est-à-dire des jeunes personnes qui ont voulu fuir la police politique, guerre coloniale et 4 ans de combat en Afrique, sont venus en France et certains ont commencé à faire des thèses en histoire, en sociologie, en anthropologie, etc. Et c'est là, notamment en France, et aussi en Angleterre et en Suisse, que des travaux ont été menés sur savoir si c'était un fascisme ou si c'était pas un fascisme. Parce que c'était à la fois la recherche, c'était continuer le combat politique, comprendre une dictature qui durait depuis 40 ans, et en la comprenant, on pouvait lutter contre elle. Donc il y avait un très fort lien entre engagement politique et engagement scientifique. Et après 1974, le débat a continué. Et c'était notamment la crainte de nombreuses personnes de voir une banalisation de la dictature, de dire que finalement, la dictature de Salazar, c'était pas Franco, c'était pas Hitler, c'était pas Mussolini, et donc de replacer cette interrogation dans le combat de l'antifascisme. Et au Portugal, depuis les années 70, 80, 90, les recherches sont beaucoup centrées autour de, souvent, ce matin, Gérard Mauger, avant nous, a évoqué les rares choses qu'il connaissait du Portugal, mais il a su dire Salazar. C'est-à-dire que, et toutes les recherches sont basées sur Salazar. Et notamment, et ça c'est une différence avec ce qui s'est passé en Espagne, les archives de Salazar sont ouvertes depuis 1994, sans aucun problème d'accès. Vous n'avez pas de problème d'accès au Portugal aux sources, soit celle de Salazar, soit celle de la PID, si ce n'est des problèmes, je veux dire, infrastructurels. Ce n'est pas comme en Espagne, où l'accès aux archives de la répression du franquisme est extrêmement difficile. Mais tout ça a fait qu'on a beaucoup centré sur Salazar, sur ces papiers qui sont facilement disponibles, et que donc on a essayé de traiter cette question du salazarisme fasciste ou non à partir de Salazar et de ses papiers, et aussi à partir des discours. Ça veut dire que Salazar, il y a un ensemble de 6 volumes des discours de Salazar, et à partir de là, c'était une exégèse sans fin des discours. Alors certes, les discours sont des pratiques, okay, mais après, le régime des pratiques, et ce qu'on voit dans cette, justement dans le sous-titre, dans les pratiques du métier de sociologue ou pratiques du métier d'historien, c'est qu'il y a eu très peu d'attention à des choses qu'on retrouve dans cet ouvrage, notamment le pouvoir des notables locaux, le pouvoir de l'Église, le pouvoir des maires. C'est-à-dire qu'on en sait sur ça, sur comment fonctionne la dictature au quotidien, comment fonctionne la dictature au plus près des populations et des classes populaires, comment des personnes ont su utiliser les ressources diverses et variées, comme on a vu avec les intellectuels, pour maintenir leur domination et pour la reproduire. Ça, c'est une chose qu'il n'y a pas. Et c'est une sorte de paradoxe. Ça veut dire que dans une volonté de démontrer que le salazarisme est un fascisme, on s'est concentré sur Salazar, ce qui fait qu'on a en partie occulté une grande partie des courroies de transmission, des rouages du salazarisme. Ça veut dire que maintenant, quand on parle de la dictature, on parle de Salazar et de la PID, la police politique, et on oublie totalement les fonctionnements quotidiens. Je vais vous donner juste un exemple. Tout à l'heure, Bruno a parlé des noms de rue. Vous avez encore au Portugal des caciques, des notables, des fonctionnaires, des maires qui étaient liés à l'Union nationale, dont le nom apparaît toujours dans la rue. Parce qu'il y a une sorte d'occultation du rôle de ces personnes. Et donc, ce genre de travaux, pour moi, historien, devrait être beaucoup plus utilisé, leurs perspectives, leurs apports, leurs méthodes. Autre élément, et je ne dépasse pas, mais tu me contrôles, c'est notamment sur la propagande. Une des choses qui a été le plus étudiée au Portugal, c'est la propagande. Et une des personnes qui a quasiment autant, voire même plus de biographies que Salazar, parce que Salazar, c'est un peu compliqué à faire quand même, c'est Antonio Ferre, le grand chef d'orchestre de la propagande dans les années 30, qui a déjà le droit à plusieurs biographies. Et il y a eu beaucoup d'études sur les films, qui étaient vus par grand monde, mais ça, c'est pas une question, pour les livres, par les œuvres d'art qui sont étudiées, mais souvent dans une lecture très internaliste. Placer telle œuvre d'art, tel film dans l'histoire du cinéma, de la littérature, etc. Ce que nous ont montré, ce que vous pouvez lire dans le livre, leur trajectoire sociale, leurs ressources. Comment, en fait, la propagande, c'est pas seulement inculquer des valeurs à des gens, mais aussi intégrer des personnalités dans un système de reconnaissance, de réputation, etc. Comment s'assurer que les intellectuels sont mis au pas. Ça, c'est quasiment extrêmement peu étudié. Et une chose qui est, là encore, ces approches, notamment... je crois qu'elle n'est pas citée, mais l'Institut de sociologie a publié il y a quelques années un petit ouvrage, mais extrêmement intéressant, de Alicia Ingerson, qui, je crois qu'elle est américaine, si je ne me trompe pas, elle arrive au Portugal dans les années 80, et dès les années 80, il y a quelques études comme ça qui ont complètement été éliminées et qui sont quasiment jamais citées, dont celle-ci, qui a étudié comment les ouvriers, à la région du nord du pays, avec des sources très intelligentes, à l'époque, c'est-à-dire que voir les courriers que les gens envoyaient à l'administration. Eh bien, on voit bien que, complètement à rebours de l'idée qu'une grande partie des réfugiés portugaises qui prennent les classes populaires comme des sirmoles, c'est-à-dire qu'il y a un appareil d'inculcation de la propagande, et les classes populaires, évidemment, s'y soumettent, il n'y a aucune résistance, il n'y a aucune... Soit les gens ne sont même pas au courant, la plupart des gens ne sont même pas au courant de cette propagande, donc on considère que la population est une sirmole. Là, ce qu'elle montre, c'est que la population, les classes populaires, les ouvriers notamment, sont capables d'utiliser ces discours et ces cadres mentaux pour essayer d'obtenir certains avantages. Pour parler comme James Scott, les armes des faibles, on fait semblant d'être dociles pour essayer d'avoir des conditions de vie un peu moins difficiles. Évidemment, ça ne change pas radicalement les conditions. Mais ça... Et donc ça, c'est aussi une chose sur la propagande. On aimerait que les autres historiens de la propagande lisent vos travaux pour atténuer certaines de leurs conclusions. Comme je sais que le temps est compté et que Yasmine me regarde. Dernier point, c'est sur la révolution des œillets. Il y a plusieurs, notamment les travaux de João Queiroz, qui évoque la révolution des œillets. Là aussi, pendant des années, il y a eu une histoire très élitiste de la révolution des œillets. C'est-à-dire, on s'est intéressé aux militaires, et notamment à MFA, au Tel Salat Calval, etc. On s'est intéressé aux politiques. Est-ce que Cunha a voulu le pouvoir? Est-ce que Soares a sauvé la démocratie, etc. Bon, ce genre de choses. Et depuis quelques années aussi, sur la diplomatie. Est-ce que les Américains, Kissinger, Carlucci, etc. Bon. Par contre, les mobilisations sociales... Elles ont été quelque peu oubliées. Alors certes, après 1974, tout à l'heure, j'avais une question, mais il est parti à poser à Gérard Moget. Il y a eu beaucoup de jeunes, plutôt à l'extrême-gauche, qui sont partis au Portugal étudier, voir la Révolution. Il y a notamment un article de Christian Topalov en 1975, etc. Donc il y a eu tout un mouvement de jeunes militants en sciences sociales et qui, dans les années qui ont suivi, et sûrement le travail d'Alice Ingerson se place dans ce contexte, qui sont allés au Portugal... parce qu'il voulait étudier les mobilisations sociales, les occupations d'usines, les occupations d'écoles, les commissions d'habitants qui sont étudiées dans un des chapitres, etc. Et ça a produit des... Mais à partir des 80, ça a été un peu disparu. Et après, dans les années 90, il y a eu une mode, c'est-à-dire de la transitologie, étudier les transitions de la dictature à la démocratie, où là, le Portugal apparaissait comme le mauvais exemple. C'est-à-dire que le bon exemple, la bonne transition, c'était les Espagnols, avec une vision complètement fantasmée de ce qui s'était passé en Espagne, qui était une transition pactée, où les élites du passé acceptent de négocier avec les élites démocratiques et font une transition sans les débordements du peuple. Et au Portugal, dans les 80 notamment, il y a eu tout un discours, notamment tenu à droite, qui était que la révolution des œillets, c'était du temps perdu, et c'est de l'argent perdu. De l'argent perdu parce que toutes ces occupations, la baisse du PIB, ces augmentations de salaires, ça avait fait mal à l'économie, sans parler des nationalisations, etc. Et donc il y a eu tout un discours sur tout le temps qu'on aurait perdu entre 74 et 76, et comment cet débordement populaire a causé différents problèmes. Donc vous voyez, il y a eu un changement de discours. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les travaux de Jean Caloche, notamment sur les commissions d'habitants qui sont multipliées au Portugal, notamment à Lisbonne, à Setúbal, mais aussi à Porto et dans d'autres régions. Ce qui est très intéressant, je ne vais pas avoir le temps de le montrer, mais par rapport notamment à une certaine historiographie récente sur la révolution des œillets, c'est qu'il montre bien qu'il y a une certaine croyance dans certains travaux que tout commence le 25 avril 1974. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a strictement rien. On a un peuple apathique qui ne résiste pas, qui n'a pas conscience de son exploitation et de son domination. Et le 25 avril 1974, grâce aux militaires, se met à occuper des logements, se met à occuper des usines, etc. Bon. Ce que montre Jouan, et alors, parfois en historien, on aimerait qu'il aille un peu plus loin, mais ça, c'est parce que l'article est court, c'est qu'on voit que ces gens qui sont dans les commissions d'habitants, en fait, ils ont parfois déjà une socialisation politique qui précède. Et notamment dans des biais qui peuvent nous étonner, mais notamment au sein de l'Église catholique. Et à Porto, alors là, si je peux me permettre une petite critique au bouquin, c'est notamment qu'on ne voit pas beaucoup l'Église catholique. Et qui, notamment, à Porto a une grande importance, notamment parce que l'évêque de Porto, à partir de 58, rentre en dissidence avec le régime. Et il y a tout un courant d'un catholicisme de gauche, avec des institutions assez puissantes, comme les jeunesses ouvrières catholiques, etc., qui, je pense, jouent un rôle assez important. Mais néanmoins, on voit dans le travail de Jean que on ne peut pas comprendre le 25 avril si on commence vraiment le 25 avril. Il faut essayer de comprendre les mobilisations, les socialisations, les luttes qui existaient auparavant. Et ce n'est que comme ça qu'on peut réellement comprendre le 25 avril. Et ça rejoint les travaux de Boris Kobi sur mai 68. On ne peut pas comprendre mai 68 si on commence au 3 mai 68. Il faut récupérer dans les trajectoires des individus, des quartiers, des dynamiques qui précèdent. Dernière chose que là, je pense que j'attends longtemps. Je vais terminer. Je suis un peu obligé de parfois être l'historien un peu critique entre guillemets. Et à plusieurs fois dans le bouquin, il y a indiqué que il n'y avait pas de sociologie au Portugal sous la dictature. Je vais dire alors, je suis normand. Hein. Oui, mais non. Oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que si on considère que la sociologie, c'est la sociologie critique, et notamment la sociologie de la domination, je suis d'accord avec vous. Il n'y avait pas. Alors et après, il y a tout. Alors ce que je vous ai dit, il y a notamment l'apport de ces chercheurs qui viennent en France ou ailleurs en Suisse et qui commencent à faire des travaux et qui ont fortement influencé, notamment les archives de la PIDE nous permettent de voir ça, notamment dans les livres qui sont transmis, qui sont envoyés, cet attrait qu'il y a chez les jeunes portugais dans les années 60 pour tout ce qui est la sociologie critique et qui parfois, ou même la philosophie critique, qui apparaît parfois quand elle n'est pas censurée. Mais après, alors là peut-être c'est une vision de quelqu'un qui n'est pas sociologue, toute sociologie n'est pas sociologie critique. C'est-à-dire qu'il y avait une sociologie au Portugal, qui était notamment une sociologie leplésienne, donc je ne vais pas vous expliquer à vous ce que c'est, une sociologie extrêmement conservatrice, qui s'intéressait aux classes populaires, mais notamment pour faire qu'ils se tiennent bien, et notamment, il y a eu des travaux de sociologues au Portugal, à l'Université de Coimbra, de Poinçard, que certains d'entre nous... Donc en fait, il y avait déjà une sociologie. Il y a aussi une sociologie, un des centres où s'est développée la sociologie au Portugal, c'est Lisquetet, c'est aussi une sociologie du travail, mais pas du tout une sociologie du travail... pour améliorer les conditions de travail des travailleurs. Plutôt une sociologie du travail pour augmenter la productivité et le rendement avec tout le problème de la modernisation. Donc voilà, c'était juste la petite note que je voulais vous laisser un peu en termes de provocation et je vous remercie encore pour votre ouvrage et pour Yasmine et Virgilio de l'avoir dirigé. Merci.
Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais remercier Yasmine de son invitation à venir partager ma lecture de cet ouvrage collectif, une lecture qui m'a beaucoup intéressée. Et bien qu'il s'agisse d'une approche localisée, des rapports de classe à partir d'espaces sociaux du nord-ouest du Portugal, la recherche est très dense et riche à différents égards, celui des objets d'études, le rapport au logement, à la scolarité, le chômage dans un espace d'industrie textile en voie de désindustrialisation, des stratégies ouvrières, de résistance ouvrière. Il est aussi question d'espace social des intellectuels à Porto, on en a déjà parlé, qui montre la diversité des élites. Richesse aussi donc au niveau des espaces sociaux étudiés en milieu urbain et rural et des échelles d'analyse, groupes domestiques, chantiers du bâtiment dans des espaces frontaliers, quartiers, villes, villages. Et enfin, richesse du point de vue des méthodes d'enquête, à la fois quantitatives et qualitatives, ethnographiques notamment. Donc on a une dimension spatiale des processus sociaux qui est abordée de manière très fine. Et il ressort de cet ouvrage vraiment une dynamique collective, une complicité intellectuelle, comme ça a été évoqué déjà ce matin, autour donc d'un programme de coopération scientifique. Ça laisse assez admiratif et je vous souhaite beaucoup de succès. Alors, malgré une lecture un peu ardue, notamment les passages de présentation de l'appareil conceptuel mobilisé pour analyser les structures des rapports de force et de domination dans une perspective socio-historique, je voulais aussi d'emblée vous remercier car ce travail permet vraiment d'entrer dans la complexité d'une société portugaise marquée par des hiérarchies sociales très fortes, structurées par des inégalités sociales élevées qui se reproduisent malgré un ensemble de transformations sociales depuis les années 1960. Des inégalités multiples de classe, de capital culturel et économique. C'est un pays où la qualification moyenne reste faible, tout comme la mobilité sociale. Une société caractérisée par une forte diversité aussi des milieux populaires. Sans doute peut-être pas assez exposé dans l'ouvrage. De mon point de vue, j'ai regretté par exemple que les classes populaires décrites ne renvoient pas à la population, aux populations immigrées qui présentent au Portugal post 25 avril. Je me suis quand même imaginé que sur ces chantiers de bâtiments à Porto, il devait y avoir une présence de cette population. Et d'accord, on pourra en discuter. Donc il s'agit, on l'a déjà dit, d'une société très mal connue en France, d'où l'importance effectivement d'y diffuser ses recherches. C'est un des objectifs de l'ouvrage. Et j'y vois aussi le grand intérêt du chapitre 1 qui revient sur l'histoire de la sociologie au Portugal, une discipline interdite par l'État nouveau. Et donc j'ai bien noté la nuance faite par Victor. Une histoire, une sociologie, donc une discipline peu présente sous la dictature, ce qui n'était pas le cas de l'anthropologie. Et je voulais là faire référence à l'anthropologie, ce n'est pas de manière anecdotique, mais c'est parce que j'ai fait partie d'un groupe qui s'est appelé le groupe d'anthropologie du Portugal à l'EHESS, puis à la Maison des sciences de l'homme, qui entre-temps donc, s'est éteint en 2005, autour des travaux de Colette Caillé-Boisvert, de João de Pina Cabral, Carolina Bretel, donc ils se sont aussi intéressés, mais d'une autre manière, à ces questions-là dans le nord-ouest du Portugal, des sociétés paysannes. Et je pense qu'il est vraiment utile de regarder nos champs disciplinaires en train de se reconfigurer, notamment à travers de nouvelles générations, donc toute la dimension générationnelle est intéressante. Regarder la circulation des auteurs, la circulation des concepts. Et pour moi, c'était aussi une surprise de vous entendre parler en français, parce que côtoyant le milieu plus lisboète, on n'est plus habitué en fait à trouver des collègues de notre génération parlant le français. Alors, il y a une double gageure dans ma prise de parole ici. Je ne suis pas sociologue, hein, mais anthropologue du social, travaillant sur la question migratoire. Je ne suis pas spécialiste des classes sociales. Et je suis assez peu habituée à travailler à partir de la sociologie de Pierre Bourdieu, même si ses propositions d'analyse ne me sont pas étrangères. Alors, un des auteurs de l'ouvrage explique que la question migratoire traverse la sociologie des classes sociales. L'inverse n'est probablement pas vrai, à savoir que la question des classes sociales traverse toute la socio-anthropologie des migrations, mais c'est néanmoins un aspect qui est très présent dans les études sur la migration portugaise en France, hein, la migration de la fin, donc, qui a eu lieu de la fin des années 50, au long des années 60 et au début des années 70, qui s'est inscrite donc dans un contexte historique spécifique de rapports sociaux, donc de fortes inégalités sociales, dans une société encore fortement paysanne. Donc là, la migration questionne la reproduction et le changement social dans ce monde paysan. Changement aussi politique, mais il faut le dire, hein, jusqu'aux travaux menés par des historiens, donc à partir des années 90, la migration portugaise a été envisagée surtout à travers des causes économiques, facteurs de conservatisme social et de maintien du sous-développement. Et donc c'est avec des recherches donc des historiens, hein, notamment aussi ceux de Victor, qui ont montré comment l'émigration, donc à l'échelle locale, a pu aussi déstructurer les hiérarchies et les dynamiques sociales et rompre le statu quo sur lequel reposait le régime dictatorial. Et donc je reviendrai sur cette question de la migration à propos du chapitre 6, écrit par João Queiroz et Bruno Monteiro, donc le chapitre de l'ouvrage qui est consacré aux migrations pendulaires frontalières d'ouvriers du bâtiment. Et c'est un chapitre très intéressant aussi parce que il nous permet d'introduire la question des flux migratoires plus récents qui ont eu lieu au Portugal au moment de la crise, hein, au début des années 2010. Et ça renvoie aussi à cette idée de cette figure de l'émigrant portugais qualifié, cette idée de la fuite des cerveaux qui a été très médiatisée au Portugal, une question qu'il faut aussi un peu relativiser. Alors, pour en revenir très rapidement à des commentaires transversaux, j'ai donc déjà mentionné le fait que le cadre analytique est extrêmement détaillé au début de l'ouvrage, mais aussi à chaque chapitre. Et finalement, j'ai été assez impatiente. Hein. J'ai trouvé qu'il fallait attendre longtemps, page 145, pour enfin voir des données empiriques qui donnent corps à ces classes sociales, hein, avec le parcours d'Elisabeth, une ancienne ouvrière du textile au chômage, des extraits d'entretien et des descriptions très précises d'interactions sociales. Ce qui conduit à un deuxième commentaire aussi plus général, qui est lié à la question de la place qui est faite aux processus sociaux à l'œuvre au sein même des pratiques de l'enquête. Des processus qui sont finalement assez peu donnés à voir, alors que ce point, hein, qui concerne l'objectivation des conditions socio-institutionnelles de la production de connaissances, est mentionné dans le chapitre 1 comme étant, je cite, un aspect valorisé donc par la sociologie portugaise. Or, compte tenu de la structuration du champ académique portugais, hein, qui, malgré une démocratisation de l'université, reste, je cite, fortement liée à la reproduction de destins de classe sociale. Hein, il y a un article très intéressant de José Madureira Pinto sur les contradictions, hein, du processus éducatif. Je trouve que c'est dommage que cet aspect-là ne soit pas plus présent dans l'ouvrage. Alors, pour en revenir de manière plus précise donc sur cette question migratoire qui est abordée dans un chapitre qui est intitulé « Entre ici et là-bas, note de recherche sur l'émigration en Espagne d'ouvriers portugais du bâtiment », un chapitre consacré donc aux migrations pendulaires, transfrontalières, pardon, d'ouvriers du bâtiment, donc entre le Nord-Ouest et la Galice espagnole, les auteurs proposent une ethnographie de la condition ouvrières migrantes, dans les espaces sociaux, ou les bas niveaux de qualification scolaire et professionnelle à entraver en période de crise économique la reconversion et l'accès à d'autres secteurs d'activité que ceux traditionnels. Et donc, dans ce contexte, l'Espagne voisine devient un horizon d'insertion professionnelle et de mobilité sociale. Une mobilité sociale qui était questionnée par les auteurs, et j'y reviendrai très vite. Les auteurs proposent une ethnographie pendulaire pour étudier un objet territorialement fragmenté dans une perspective qui cherche à éviter l'approche réductrice en termes de push and pull. Il montre l'existence de conditions d'emploi aussi très variées. Les conditions de travail de ces ouvriers du bâtiment ne sont pas homogènes. Il y a des différences en fonction du type de contrat, selon que l'ouvrier bénéficie ou pas de conventions de travail espagnoles plus favorables que celles portugaises. Et les auteurs évoquent aussi donc les divisions internes entre ouvriers portugais, divisions préexistantes dans le prolétariat du bâtiment, et les logiques donc de compétition pour l'accumulation des richesses. Logique d'épargne, de surtravail, etc., qui sont des questions qu'on connaît bien aussi ici dans les recherches sur la migration portugaise en France. Donc cette circulation transfrontalière se fait avec la région voisine de la Galice, où les migrants font l'expérience d'une altérité la plus totale. Et j'ai trouvé cette idée intéressante, ça revient sur une idée reçue d'une proximité transfrontalière qui finalement renverrait plutôt à du proche qu'à du lointain. Ils font l'expérience de stéréotypes négatifs qui limitent leur participation sociale et politique, et donc leur intégration à la société locale espagnole. Et donc, il y a aussi une réflexion sur le sentiment de subalternité que cette main-d'œuvre vit. Et voilà, je trouve intéressant de réfléchir aussi à cette question de la subalternité à partir du contexte français, de cette main-d'œuvre portugaise plus qualifiée, qui a dû aussi accepter, suite à la crise économique, des emplois en dessous de leur qualification. Donc c'est aussi une question qui apparaît dans des populations plus qualifiées que ces main-d'œuvre du bâtiment, que cette main-d'œuvre du bâtiment. Et cette question de la subalternité, je l'ai aussi trouvée dans une enquête de terrain que j'ai pu faire en Angola auprès de migrants et d'expatriés portugais qui ont émigré en Angola, donc qui était une ancienne colonie portugaise au moment de la crise, dans les années 2010. Et cette question-là de la subalternité apparaît pour montrer finalement un choix d'une migration vers le sud, et un ancien espace colonisé, plutôt que vers le nord, l'Europe, pour justement éviter la subalternisation. Alors, pour en revenir à ce chapitre, donc il décrit la vie sacrifiée, je cite, de ces hommes, et il y a des parallèles à faire avec ces ouvrières textiles au chômage, décrites dans le chapitre précédent, des hommes qui rentrent chez eux une fois par semaine ou une fois par mois, et dont les sociabilités dans le lieu d'origine se réduisent. C'est un aspect que j'ai trouvé intéressant de cette recherche. Et du coup, on peine à voir dans ce chapitre les formes de revalorisation symbolique des classes populaires qui est évoquée, mentionnée par Nicolas Renaï dans la présentation de cette deuxième partie d'ouvrage. Et du coup, ça m'interrogeait sur cette question du retour et de la réintégration dans le lieu d'origine, la question des rapports de classe au moment du retour. Il y a un travail qui avait été fait par Albertine Gonçalves en 1996 qui montrait comment le retour des immigrants donnait lieu à des luttes symboliques de classification sociale au sein de la société portugaise dans les villages. Je m'interrogeais aussi sur ces luttes en milieu urbain. Je ne connais pas de travaux qui portent là-dessus, mais je me suis posé la question aussi par rapport à des éléments de mon travail de doctorat sur des enfants des migrants portugais de retour dans l'université à Porto, à la faculté de lettres ou à la faculté d'économie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus? Et je faisais aussi le parallèle sur les pratiques de réintégration donc dans la société d'origine avec un une recherche que j'ai fait au milieu des années 2000, aussi dans le nord du Portugal, mais dans la région de Trás-os-Montes, donc à l'est, où on voyait donc ces ouvriers du bâtiment qui avaient aussi ces migrations pendulaires vers l'Espagne, revenir effectivement une fois par mois dans le village d'origine, adopter ces pratiques ostentatoires pour montrer la réussite du projet ou de la pratique migratoire. Aller voir les prostituées, c'est une question que vous abordez aussi. Mais cette question des pratiques ostentatoires, le fait d'aller voir des prostituées, de gaspiller son argent, je les voyais aussi comme des pratiques de réintégration locale, et notamment à travers l'appartenance à la classe d'âge des jeunes dans ce village, dans le village sur lequel j'ai travaillé. C'est un village organisé encore sur les logiques communautaires avec l'organisation de rituels de puberté, où donc voilà, la classe d'âge est encore importante. Et donc, par exemple, ces logiques d'aller voir une prostituée, d'affirmer une virilité, permettent de se réintégrer localement à un groupe d'âge et plus largement à la société villageoise à travers aussi un espace social politique, puisqu'il y a des liens entre ces rituels d'initiation et la dimension d'accès à des charges politiques. Sur des liens effectivement à faire, mais après j'ai vu que dans le programme de la journée, il y aura des liens faits avec donc la question des flux migratoires portugais actuels en France. Je me disais qu'il y avait là des fils à tirer sur les rapports de classe, donc au sein des flux, le rapport de classe sociale entre par exemple les enfants de migrants portugais en France. Il y a des travaux qui sont faits sur la question de la mobilité sociale ascendante, et de voir s'il y a des espaces sociaux qui existent où ces individus vont être confrontés aux Portugais qui sont arrivés en France de manière plus récente, aussi diplômés, et voilà, observer ce qui se passe dans ces interactions sociales. Et enfin, je voulais demander une précision concernant une notion qui est utilisée, page 197, je crois que c'est toi, Yasmine, dans la présentation de la dernière partie, la notion de résignation qui est utilisée pour expliquer... 197, qui est utilisée et renvoyée donc à l'étude d'une économie morale des classes populaires portugaises. Ah, c'est pas toi, pardon. Voilà, si quelqu'un veut s'emparer de cette question. J'ai été un petit peu étonnée et, voilà, de voir que c'est cette notion de résignation qui était utilisée ici. Voilà. Merci de votre écoute. Et je voulais aussi m'excuser pour auprès des intervenants de l'après-midi. Je vais devoir partir plutôt parce que j'ai un séminaire à l'EHESS et c'est la conclusion cet après-midi. Mais je lirai très volontiers ou écouterai les interventions de l'après-midi. Merci.